Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec Timur Ersen, bonjour.
Bonjour.
Tu es architecte, également artisan sur le pisé.
Oui.
Une technique particulière, une terre en fait.
Ouais.
Ben, on va parler de tout ça et notamment aussi de ton atelier Cara avec lequel tu proposes tes activités qu'on va découvrir. Tu es basé où d'abord ?
Je suis basé à Cray.
L'atelier ouais. Aussi.
L'atelier il est basé vers Emeux, vers Romans.
C'est quoi la formation pour être artisan architecte de pisé ?
Il n'y a pas de formation. Y a une formation pour être architecte, donc que j'ai suivie à Lyon.
Et, donc école d'archi.
École supérieure d'architecture de Lyon en 5 ans. Et ensuite, j'ai découvert le travail d'un artisan pisé, autrichien. Et quand j'ai vu son travail, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne cette technique-là. Et bah, pour l'apprendre, je suis directement allé travailler chez lui, en fait, sur un chantier.
Le pisé, ça vient d'Autriche ?
Non, eh ben, le pisé, ça vient de loin. Je pense qu'il y a plusieurs milliers d'années, on construisait en pisé. Mais en Europe, l'endroit où il y en a le plus, c'est dans le Rhône-Alpes.
Ah ouais ?
Ouais, il y a à peu près plus d'un million de bâtiments qui ont été recensés en pisé. Et il y en a en Afrique aussi, il y en a en Chine, il y en a partout. Mais voilà, en France, ça a un petit peu disparu au cours du XXe siècle quoi, avec l'industrialisation. Et en fait, pendant l'école d'archi, en fait, on n'apprend pas trop ces techniques-là. Et on s'intéresse très peu à la matière, ce qui est un peu paradoxal. Et en fait, voilà, je suis tombé sur la maison de cet artisan, qui est artiste aussi. Et quand j'ai vu que c'était de la terre et que c'était aussi beau, fallait que j'apprenne.
Bah, on en revient un petit peu sur l'école d'archi, en fait, vous apprenez quoi ? À dessiner, principalement ?
Ouais, dessiner, une culture aussi, une culture artistique de l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, de dessin, d'avoir aussi l'œil pour les espaces, les proportions, aussi prendre en compte, quand on fait un projet, plein d'aspects, que ce soit le site, le programme, re-questionner souvent aussi ce programme-là, travailler aussi en collaboration avec des ingénieurs et d'autres. On apprend plutôt une culture en fait, une façon de voir les choses.
Puis une partie administrative peut-être aussi, non ?
Très peu. Ça c'est si on veut ouvrir sa propre agence, on fait une année supplémentaire et là c'est très administratif. Donc ça aussi je l'ai fait pour pouvoir faire mes propres projets. Mais l'école d'archi c'est super intéressant. Mais une fois qu'on arrive, on arrive dans le monde réel, pragmatique, où il faut construire, où c'est pas si évident que ça en fait. Souvent, on dit que les architectes, ils sont vraiment formés une fois qu'ils ont, ils ont pratiqué 20 ans quoi. L'école d'archi, ça ouvre un peu tous les champs et ensuite, on s'oriente un petit peu pendant notre pratique quoi, je pense.
Et alors pourquoi est-ce qu'on voit certains architectes pro-béton, pro-verre, pro-fer ? En fait, finalement, ils ont quand même choisi une matière. Et là, tu disais qu'on ne vous amène pas du tout sur ces champs-là.
Ouais, eux, je pense qu'ils ont choisi après coup. Après, c'est...
Ok.
Et c'est pas le rôle. Je pense que c'est pas le rôle d'un architecte de choisir une matière en particulier. Parce que, notre rôle, je pense, c'est qu'en fonction des sites, en fonction des cultures, en fonction des traditions, on doit s'adapter. Et on va pas. Enfin, moi je trouve ça bizarre de construire, je sais pas, en bois dans une région où il n'y a pas de bois, ou etc. Et après, le béton, le verre, l'acier, ce qui est plutôt les techniques qu'on utilise quand on est à l'école d'archi au final, c'est parce que. C'est culturel en fait, ça évolue ces matériaux-là. En fait, on se posait même pas la question quand on dessinait un trait, on se disait que c'était du béton, c'est tout quoi. Et en fait,
c'est le seul moyen d'ailleurs d'être sûr que le trait soit droit, le béton, non ?
En pisé, on peut faire des murs super droits.
Ah, j'y vais, franchement. Alors, le pisé, comment est-ce que, peut-être pour les auditrices, auditeurs, moi-même d'ailleurs, comment est-ce qu'on repère une baraque en pisé là ? Si tu dis qu'il y en a plein en Rhône-Alpes.
Hein. Ouais, et ben, on le repère parce que, bon,
déjà. Celles qui ont les croisillons, non, là, comme ça, en bois, là ?
Non. Non, alors le pisé, bon, déjà pour dire comment c'est fait, en gros c'est un coffrage, on va dire comme du béton, on a un coffrage Et on va venir par couches successives mettre de la terre et la tasser. Donc par exemple, on va mettre 15 cm de terre, on va venir la tasser, on va remettre 15 cm, on va la tasser. Enfin, ça va devenir 8 par exemple, on remet 15, on tasse, ça devient 8, on remet 15. Et quand on décoffre, du coup, on les voit ces lignes, puisqu'on a tassé par ligne. Mmh. Ensuite, on bouge le coffrage, parce que comme le mélange est presque sec, en fait, on n'a pas besoin d'attendre. On ouvre, ça se tient tout seul déjà. On avance le coffrage, on tasse, on avance le coffrage, ainsi de suite. Et ça, on les remarque. On remarque ces bâtiments, par exemple, pas loin d'ici, à Chabeuil, il y a au premier rond-point sur la gauche, là, il y a une grande grange qui est tout en terre. Donc on la voit, elle a une couleur un peu ocre et elle a pas d'enduit, elle a pas de grand débord de toiture et elle est là depuis. Je crois que je suis allé voir les propriétaires et c'était 200 ans à peu près. Ça fait 200 ans qu'elle est là, quoi.
Donc pas de rebord de toiture, c'est-à-dire qu'elle prend la pluie de face, le soleil, le gel des gels.
Le vent, le dégel des gels depuis 200 ans, quoi.
Pourquoi ça tient ?
Alors, quand on... faut imaginer le pisé un peu comme du béton. En fait, c'est un béton d'argile. C'est quand on dit béton, en fait, on...
Oui, on voit ça des fois dans des... Par exemple, quand on laboure un champ, on se retrouve dans des phases terreuses qui sont très, 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 très denses, en fait. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça, en fait. On recrée ce que la nature a fait en tassant les choses. Nous, on le retasse artificiellement, quoi, en fait. Et c'est, l'idée, c'est d'agglomérer des agrégats, donc des cailloux, des graviers, des sables, qui ont besoin d'un liant pour se coller, et c'est l'argile. Donc dans le béton de ciment, c'est le ciment qui fait une prise chimique, qui agglomère tout ça, mais dans l'argile, en fait, c'est les plaquettes d'argile qui vont venir coller tous ces grains ensemble, en fait. Et en tassant, on chasse l'air du mélange pour être le plus dense possible et pour que ces grains-là agglomèrent bien tous les grains ensemble.
Donc quand je parlais d'une technique, le pisé, c'est pas une terre, c'est bien un mélange particulier avec un dosage précis, du coup.
Alors le pisé, c'est une technique de construction en terre, en fait. Et il y a plein d'autres techniques. En Alsace, on connaît tous les colombages, ça c'est du torchis.
Ouais, c'est ça que je disais tout
à l'heure. Voilà.
C'est ça.
En Bretagne, il y a la bauge, c'est de la terre qui est façonnée à la main, qui est un mélange plus plastique. Sans coffrage, on peut utiliser coffrage aussi. Il y a d'autres, les adobes, il y a plein d'autres techniques, mais le pisé, c'est utiliser de la terre crue, la tasser dans des coffrages pour en faire des murs porteurs, souvent. La plupart du temps, c'est des murs porteurs.
Et qu'il faut mélanger quand même avec quelques autres ingrédients.
Alors, oui, le dosage est super important.
Comme par un mélange de chaud, etc.
Voilà, c'est comme tout, en fait. Si, plus il y aura de liant, d'argile, plus il y aura de retrait au séchage, donc de fissures. Et si on n'a pas assez, ça ne colle pas assez. Donc il y a ce mélange-là. Ensuite, des plus ou moins gros agrégats en fonction des couches qu'on veut faire, en fonction du site où on est aussi. Parce que l'idée, c'est quand même d'utiliser la terre la plus locale possible. Donc peut-être même souvent utiliser la terre sous l'excavation du bâtiment, en fait. Et ensuite, une fois qu'on a cette terre-là, on analyse. On voit, par exemple, il y a beaucoup de gravier, de sable et très peu d'argile. Et on va rajouter de l'argile. On va faire... les carrières aux alentours, visiter d'autres chantiers où il y a des excavations et faire des mélanges pour arriver à un pisé qui est de bonne qualité.
Donc on utilise le déchet de la fondation finalement pour construire le mur.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça peut faire le chemin inverse aussi. C'est-à-dire que le jour où cette maison doit disparaître, entre guillemets, ça peut rester là, quoi, au même endroit. Du coup, la terre, elle n'est pas polluée.
Il y a rien, il y a pas de prise et pas de...
Il y a quand même de l'énergie pour extraire, pour mettre en œuvre. Il y a sûrement aussi un peu de transport parce que c'est quand même pas si souvent que ça que tu as la bonne terre parfaite sous ton excavation. En Rhône-Alpes, tu as plus de chance parce que cette terre-là, elle est plutôt propice à cette technique. Mais quand même, dans un cercle de, je dirais, 30 km à la ronde maximum, tu trouves tout ce qu'il faut pour faire du pisé, quoi.
Est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'il y ait plus de maisons en pisé en Rhône-Alpes que dans le reste de la France ?
Ouais, clairement. Parce qu'il y a beaucoup... Ouais, en fait, il y a les dépôts alluvionnaires, en fait, qui font qu'il y a ce mélange de gravier de différentes tailles avec l'argile qui s'est déposée dans ces graviers. Et en fait, des fois... Là, je viens de faire un projet dans l'Isère. Et en fait, on a trouvé... dans une carrière, ils étaient en train de commencer, en fait, une découverte. Ce qu'ils appellent, c'est quand ils vont recreuser ailleurs pour prendre les graviers pour le béton. Et en fait, ils ont une couche de stérile, c'est-à-dire la terre qui, pour eux, c'est du déchet, en fait. Il faudrait trop d'énergie pour la laver, pour enlever l'argile, pour récupérer les graviers. Donc, ils la mettent de côté pour reboucher les carrières ou autre. Et en fait, cette terre-là, elle était parfaite quoi, en fait, pour le Pisé. On en a fait un bâtiment public porteur. Donc, voilà.
Alors, on va parler un petit peu des projets justement que tu as pu réaliser. C'est une technique quand même relativement ancienne et tu le disais. Tu découvres ça avec un artisan autrichien qui est où dans le coin?
Alors, non, lui il est en Autriche. Il s'appelle Martin Rauch.
Et là-bas en Autriche, il l'utilise aussi cette technique.
Oui, ouais. En fait, le Pisé, ça quasiment vraiment disparu, je pense, au milieu du XXe siècle.
C'était le sens de ma question, d'ailleurs. Ah, oui. Comment ça s'est transmis, du coup?
Et oui, voilà. Bah, après, y a dans certains pays, je pense, ça a continué. Ça s'est sûrement transmis en France, quand même. Mais ça, je connais pas d'artisans qui font le lien. Mais par contre, il y a des gens qui ont réappris à utiliser cette technique-là ou qui sont partis de base. Et du coup, cet artisan-là, comme beaucoup d'autres, en fait, c'est dans les années 80... Je pense que ça a recommencé aussi parce que peut-être que les notions écologiques dans le bâtiment ont apparu. Et du coup, cet artisan, en fait, il était artiste, céramiste à la base. Donc, il connaissait la terre, mais cuite. Mmh, mmh. Et en fait, il avait aussi voyagé en Afrique et il avait découvert cette technique-là et il s'y intéressait. Et en fait, ça fait 30 ans qu'il la développe en tant qu'artisan. Et le fait qu'il soit artiste, ça change beaucoup en fait, parce que il la met en œuvre tout en, donc il y a le côté écologique de cette technique là qui l'a attiré, mais il y a aussi le côté plastique, esthétique, et en fait les deux se développent en même temps dans son architecture, on va dire. Et je trouve que c'est ça qui m'a passionné, moi, en fait, c'est de voir qu'on peut faire des magnifiques espaces avec un matériau local, quoi.
Et c'est pour ça que tu te qualifies aussi d'artisan, alors, parce que l'art, l'architecte, ça fait partie des neuf grands arts qu'on va dire qu'on a authentifiés. Ouais. Donc il y a déjà une démarche artistique dedans.
Ouais.
Pourquoi rajouter ce côté artisan?
Ah non, je le rajoute pas artificiellement.
Si tu veux utiliser le Pisé, t'es obligé.
Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand je suis allé apprendre chez lui, ensuite j'ai fait un projet au Mexique, ensuite je suis allé un peu en Allemagne et 2 ans en Turquie, où là j'ai essayé de développer aussi le Pisé par moi-même, construire moi-même pour proposer cette solution. Et quand je suis revenu en France il y a 2 ans, bah, en fait on m'a contacté pour que je construise en Pisé, vu que j'avais appris chez Martin Rauch et j'avais développé des choses en Turquie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, j'avais pas le droit de construire. Il faut un CAP de maçon, en fait. Enfin, un CAP de maçon.
Ah oui, l'architecte doit déléguer à d'autres artisans.
Ce qui est compréhensible,
en fait.
C'est des savoir-faire différents. Et donc, j'ai passé un CAP de maçonnerie traditionnelle. Enfin, voilà, pour avoir le droit de m'inscrire à la chambre des métiers de l'artisanat. Mais j'ai pu le passer en validation d'acquis. Et voilà. Du coup, j'ai ouvert une entreprise de maçonnerie. Pisé, quoi, en tant qu'artisan. Et donc maintenant je réponds à la fois en tant qu'artisan, des fois pour des architectes qui ont construit un bâtiment, je leur construis le Pisé, et en parallèle j'ai une pratique d'architecte aussi.
Ouais, donc du coup on peut t'embaucher
pour faire les deux.
Pour faire les deux.
Ouais, après c'est un peu compliqué en France de faire les deux en même temps légalement.
Oui. Oui, c'est ça, il faudrait que l'architecte s'auto-appellerait, tu répondrais toi-même à tes appels d'offres, il y aurait collusion, c'est ça, non?
En vrai, c'est pas clair encore cette question-là de comment pratiquer, mais...
Oui, parce que normalement, on peut même demander à l'architecte de mettre un blâme aux artisans qui vont pas assez vite.
Ouais, voilà, il y aurait conflit d'intérêt, quoi, en tout cas. Parce que... Et donc, dans le public, c'est sûr que c'est interdit d'être l'architecte qui suit le chantier et d'être artisan. Donc ça, c'est interdit. Dans le privé aussi, je pense, mais il n'y a rien qui est interdit de concevoir le bâtiment et de ne pas le suivre, le chantier, et d'être un des artisans sur le chantier, quoi. Parce que de toute façon, ce qui est paradoxal, c'est que si tu fais cet effort-là, en principe, c'est pour le bien du bâtiment, quoi. Après, c'est sûr que légalement, ce n'est pas évident, mais moi, dans la génération d'archis qui sortent de l'école, là, avec moi, on est plein. Maintenant, j'ai un ami qui est architecte charpentier, l'autre architecte ébéniste, l'autre architecte... Enfin, il y a de plus en plus de demandes de reconnexion, quoi, avec la matière, avec comment on construit.
Pour quelle raison, tu penses? Vraiment pour ça? Pour essayer d'être moins déconnecté de ce...
Ouais, moins déconnecté.
Moins derrière un ordi, quoi.
Déjà, moins derrière un ordi. Et aussi parce que, en tout cas, le sentiment de concevoir quelque chose quand tu sais comment ça se construit, bah en fait, c'est super, quoi. Et aussi parce que il y a quand même une distance sur les chantiers, entre les architectes, quand on écoute beaucoup d'artisans, on entend que les architectes ils connaissent pas assez l'acte de construire, du coup ils ne comprennent pas, là, 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 et inversement. Et du coup, de toucher aux deux, le lien après est un peu plus naturel quoi, sur le chantier, en tant qu'architecte ou en tant qu'artisan.
Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit. Les architectes sont dans un autre monde.
Et pourtant, c'est faux. Je pense que c'est peut-être certain. Peut-être certain. Et aussi parce que la profession, elle te pousse à ça. Je veux dire, je sais pas, il y a un moment donné, l'architecte, c'était le charpentier du bâtiment, quoi. Et à un moment donné, l'architecte aussi, il n'y avait pas l'architecte d'intérieur, l'architecte de machin, le designer de... il n'y avait pas toutes ces spécificités-là, en fait. Il y avait plus de connaissances.
Et puis, il n'y avait pas forcément une volonté de vouloir faire quelque chose qui soit une œuvre en elle-même, quelque chose d'un peu atypique, un bâtiment étonnant.
Ouais, ça aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu le fantasme des architectes qui veulent absolument faire quelque chose d'incroyable.
Alors, en tout cas, les œuvres qu'on retient architecturales sont quand même souvent des trucs assez incroyables.
Ouais, alors que finalement, ce qu'on visite le plus, c'est les centres médiévaux des vieux villages, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose
à faire. On peut d'ailleurs les détester, ces bâtiments ultra architectés.
Ouais, ouais.
Je sais pas si ça se dit.
Ouais, non, c'est vrai. Non, mais il y a aussi une période, là, quand même, où les architectes sont devenus un peu des stars, et certains architectes, et quand t'es étudiant, je sais pas, c'est peut-être... c'est comme quand les musiciens, je sais pas, ils rêvent de je sais même pas comment expliquer ça en fait.
Oui, mais du coup, est-ce que c'était ton rêve quand même d'être architecte?
Architecte.
Comment tu viens à ça?
Alors là, pour moi, c'est pas très original. Il y en a plein qui sont leur rêve quand ils sont petits et tout. Moi, c'était pas du tout mon rêve. C'est que quand t'arrives à la fin de ton bac et de ton lycée, faut bien trouver quelque chose à faire.
Ah.
Et dans ma famille, ils sont maçons en fait. Et sauf que j'avais travaillé sur les chantiers, je me sentais pas non plus d'être juste dans la partie exécution. Ça me disait bien de penser au bâtiment, comment il est fait. Et en fait, mais je me sentais pas assez, je suis pas assez créatif pour être dans la création pure, dans l'art. Et en fait, c'est vraiment un mix des deux, en fait, l'architecture. Et une fois que je suis rentré dans l'école d'archi, en fait, les études sont vraiment géniales, vraiment très intéressantes. Et donc, ça m'a passionné, en fait.
Est-ce que tu trouves une dimension artistique maintenant dans ce que tu fais?
Oui, ouais, je pense. Ouais, bah rien que, mais surtout grâce aussi au pisé en fait, parce que de partir d'une matière brute et d'en faire des espaces, bah entre les deux pour arriver à ça, il faut imaginer, créer, tester, jouer avec les couleurs, les matières, les textures et en fait après l'architecture, on va dire non artistique, c'est parce que on fait pas des œuvres d'art. On fait quand même des espaces où il y a des gens qui vont être dessous. Donc, faut que ça tienne. Il y a tout ce qui est technique. Il y a la coordination des corps de métier, tout ça. C'est très technique. Il y a une partie infime de création, mais elle est très importante.
Voilà. Tu nous as parlé de plusieurs projets, Mexique, Allemagne, Turquie. Est-ce que tu veux nous les décrire un peu?
En fait, après, j'ai travaillé un an sur les chantiers avec Martin Rohr. Et ensuite, j'ai eu mon premier client, entre guillemets, où j'ai pu être architecte ouvrier. Pas artisan, mais ouvrier. Donc, main d'œuvre pour l'artisan. Où j'ai dessiné, c'était pour un centre de permaculture au Mexique. Et il avait besoin d'un espace pour ranger ses outils, accueillir quelqu'un. Donc, c'était 70 mètres carrés. Et l'idée, c'était d'habiter sur place, de concevoir le bâtiment, le construire avec le client et avec les artisans. Et donc voilà, je suis allé au Mexique et on a construit avec les pierres, la fondation en pierre d'une carrière locale, les murs porteurs en briques, cuites, celle-là, d'un village d'à côté, et la charpente en bambou et la toiture en feuilles de palme. Et j'ai essayé de... c'était pas évident, parce que dans une forêt magnifique, une forêt presque pas touchée quoi, par l'homme, et construire un bâtiment, son premier bâtiment, c'est pas si évident que ça, parce que c'est-à-dire qu'il faut accepter de détruire. À un moment donné, il faut détruire une sorte d'harmonie qu'il y a, et la détruire pour en recréer une autre. Et j'ai essayé aussi de dessiner quelque chose, pas d'imiter en fait, pas d'imiter les constructions locales, d'avoir un langage singulier, mais avec ses matériaux locaux par contre, et qui correspondait bien au programme. Donc voilà, c'était le premier projet. Et c'était vraiment une expérience unique. En fait, après ça, c'est sûr que je voulais plus travailler en agence d'archi quoi, parce que c'était tellement nourrissant en fait de dessiner avec le client, enfin se confronter tous les jours à lui, ses changements, c'est le chantier, les artisans, être avec eux, apprendre à construire en pierre, en brique, tout ça. C'était génial en fait d'être sur le chantier comme ça. T'as ton bâtiment qui se construit en direct quand t'es là quoi. Enfin, c'est vraiment super.
Et tu trouves qu'il est bien intégré à son milieu? Objectivement maintenant, avec
oui,
le recul.
Je pense. Ouais. Je pense. Après, j'aurais préféré que ce soit en terre crue plutôt qu'en terre cuite. Mais par contre, en fait, l'intégration, elle se joue beaucoup sur la toiture. En fait, la toiture, elle est en feuille de palme. Et une fois qu'elles ont séché, elles sont très beiges et elles se fondent vraiment dans la forêt, quoi. Donc tu vois les murs en briques un petit peu, mais tu vois clairement les ouvertures, en fait, parce qu'elles sont très géométriques. Il y a un énorme cercle d'1,80 m de diamètre, des fenêtres rectangulaires, quoi. Donc ça se marque. Mais par contre, tu as cette toiture qui efface un peu le bâtiment. Mais ça ne veut pas dire que s'effacer, c'est mieux s'intégrer, quoi. Ça peut être très marqué, une différence, mais ça correspond quand même au... En fait, dans tous les cas, quand on construit, il faut accepter d'impacter l'environnement dans lequel on est, quoi. C'est pas grave, en fait, de l'impacter, puisque c'est sûr qu'on va l'impacter. Mais par exemple, une fois en Turquie, j'avais un potentiel client qui d'habitude construisait des maisons normales, entre guillemets, avec le béton, les parpaings, tout ça. Et qui vient vers moi, ouais, je veux une maison en terre éthique à 100%. Et donc je lui explique, bah, va falloir faire des excavations pour faire les fondations. Et il a dit, ah non, mais il faut qu'on touche le terrain, le site, il faut qu'on abîme le site. Je dis, bah oui, on est obligé. Il faut bien qu'on commence quelque part, quoi. Et en fait, non, ça le gênait psychologiquement de toucher le site, quoi. Donc je pense qu'il faut aller au-delà de cette. Faut pas avoir peur en fait.
Faut pas poser une maison là-bas s'il veut pas le toucher.
Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il avait un imaginaire de quelque chose de tellement pur qu'il fallait pas toucher quoi que ce soit, quoi. Alors que tous les matériaux, c'est ça qui est intéressant quand on commence à s'intéresser à la matière, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on construit, faut bien que ça vienne de quelque part et que ça a été façonné d'une certaine façon. Et plus on s'y intéresse, plus en fait on se dit que, enfin, partout sur la terre, il y a du bois, de la terre ou de la pierre. Et qu'il n'y a pas besoin de les transformer beaucoup pour en faire des habitats sains. Donc je ne vois pas pourquoi on construirait avec autre chose en fait, que ça. Et parce que les autres matières qui sont autour, qui sont aussi des inventions géniales, le béton c'est une invention géniale, mais il faut aussi voir les conséquences de ces...
Il y a un gros process industriel par
voilà,
exemple.
Ouais, voilà, et de
consommation. D'extraction, de transport,
De cuisson surtout.
Cuisson, ouais.
Et ce n'est pas grave, il faut juste ne pas utiliser de partout quoi. On peut faire autrement. Pour les fondations, pourquoi pas, c'est logique. Pour certains chaînages, des choses comme ça, c'est logique. Mais de construire des murs, des voiles de partout, en béton tout le temps, je ne sais pas si c'est très sain, quoi.
Ce bâtiment que tu disais avoir, en mêlant plusieurs techniques, tout ça, est-ce que c'est parfois une difficulté aussi, peut-être pour toi, de venir et d'imposer ou de rendre logique l'utilisation exclusive de la terre crue, du pisé?
Ouais. Ça se pose comme question. Après, chacun a sa spécificité et je me dis que c'est pas si grave que ça. En fait, j'ai eu le problème en Turquie où, la technique traditionnelle de construction en terre, c'est les adobes. Donc, c'est des briques de terre qui sont séchées, coulées et séchées au soleil. Cette technique-là aussi, elle est plus utilisée en Turquie, hein, bien sûr. C'est poteau, poutre, béton, remplissage brique, peinture vite fait et c'est fini. Et en fait, je proposais le pisé et on m'a reproché de temps en temps, mais pourquoi tu fais du pisé alors que la technique traditionnelle, c'est des adobes? Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on me pose la question à moi, mais on ne pose pas la question à celui qui construit en parpaing de ciment. On ne lui dit pas, avant c'était des adobes, pourquoi tu construis en parpaing de ciment? Donc en fait, moi, je ne suis pas trop attaché à ça. Je ne suis pas conservateur. On va dire. Ça ne me dérange pas de construire en pisé un endroit où il n'y a jamais eu de pisé. Parce qu'à un moment donné, le premier mur en pisé, il n'y avait pas de mur en pisé avant. Ce n'est pas si grave. C'est sûr que c'est intéressant de... En fait, il y a des logiques. Il y a des logiques de matière. Comme tu disais, avec la terre du Rhône-Alpes qui est propice au pisé. Par contre, maintenant qu'on a quand même plus de facilité à transporter les matières et à aller chercher aux alentours, bah en fait, que je sois en Turquie, au Mexique ou ici, j'ai dans un cercle de 30 km, j'ai trouvé la terre qu'il fallait. Mais c'est sûr qu'on aurait pu construire avec des adobes ou avec autre chose, quoi. Ça se pose. Ici, quand je propose le pisé, on me dit « Ouais, mais la tradition ici, c'est les pierres. » Ouais, mais ouais. Qui est-ce qui construit en pierre, hein? Il n'y a pas... On passe pas la question à tous ceux qui construisent en parpaing.
Oui, ici, en plus, c'est pierre. C'est la pierre historiquement enduite de chaux. Donc maintenant... Du moment que c'est enduit de chaux, on ne sait plus ce qu'il y a.
Ouais, c'est vrai. Je ne suis même pas sûr que ce soit enduit de chaux, hein, les maisons de parpaing.
Si, regarde, tout est enduit. Un crépi, quoi.
Ouais,
c'est pas forcément de la chaux.
Ouais, voilà.
T'as raison.
Mais ça change pas mal, ça, parce que par exemple, dans le Pisé, dans le Rhône-Alpes, il y a eu beaucoup de malfaçons dans la rénovation. Vu que le savoir-faire disparaît, en fait, des gens se sont retrouvés avec des maisons en Pisé. Ils se sont dit, je veux refaire ça nickel, je vais faire un enduit ciment. Et donc, en fait, de faire un enduit ciment, c'est comme lui mettre un caouet étanche. Et donc, si de l'eau rentre, elle ne peut plus sortir. Et donc, le bâtiment s'écroule ou pourrit. Et en fait, on a du coup dit la terre, c'est pas bien, c'est pas solide, ça s'écroule. Alors que c'est juste une méconnaissance, en fait, de la matière. Il faut que ça respire, quoi. C'est comme si on vivait... c'est comme si nous, on se mettait un cellophane pendant des semaines et des semaines sur la peau. Ça ne marcherait pas, quoi.
Ouais, ça pourrit. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Ça sentirait pas très bon.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi tu voyages autant ?
C'était pour apprendre, en fait, en fonction des opportunités.
Oui, tu n'es pas un architecte appelé internationalement.
Non.
Ça ne fait pas partie de tes projets de continuer à poser partout.
Non. J'aimerais bien avoir des projets locaux, en fait. Mais c'est tellement encore marginal, la construction en pisé, que cette année, j'avais un projet en Suisse. Le plus proche, c'était à Lyon. Enfin, à l'île d'Abo, en Isère. Là, j'en ai en Bretagne. Enfin, il n'y a pas de... j'en ai un bientôt, là, à Bourg-les-Valence. Ça, c'est pas mal. Un bâtiment public avec un petit mur en pisé. Mais bon, c'est dommage, parce qu'en plus, dans le coin, j'ai trouvé des terres qui sont vraiment magnifiques, quoi. On peut en faire...
Sachez-le, auditrice, auditeur, hein. On est en Rhône-Alpes, hein, ici.
C'est
en
vrai.
Fait.
C'est vrai.
La Drôme aussi. Est-ce que, du coup, les projets que... auxquels tu peux participer ou les gens qui t'appellent sont plutôt des projets, comme j'ai entendu là, permaculture, là ici, faire une maison 100% bio. Est-ce que c'est forcément du coup toujours des trucs un peu, gens engagés ?
Au contraire.
Ouais.
Enfin, pas au contraire, mais par exemple là, le bâtiment public qu'on vient de faire, donc je ne suis pas l'architecte, hein, je suis juste l'artisan, c'est un bâtiment public pour une commune, c'est la salle des associations, quoi. C'est, y a rien de particulier dans le programme ou dans le client qui fait. Après, il faut juste qu'il soit ouvert, par contre, à ça, quoi. Parce que il y a plein. En fait, la terre, elle véhicule beaucoup d'images négatives. C'est pour les pauvres, c'est pour, c'est pour les hippies ou c'est pour, c'est un truc du passé.
Pas bio, ouais.
Voilà, là, c'est ça. Alors que. Bah justement, moi, c'est ça qui m'a plu dans cet artisan-là autrichien. Je reviens souvent sur lui, mais c'est que sa maison, par exemple, qu'il a fait, on peut la visiter sans savoir que c'est de la terre. On peut l'apprécier architecturalement, les espaces, c'est beau. Et après coup, on dit « Ah ouais, c'est de la terre », et là, on pousse la chose. Mais en fait, ça m'intéresse de qu'on oublie que c'est de la terre, en fait. Qu'on soit bien dans cet espace-là. Qui soit fait avec de la terre, mais qu'on en oublie de temps en temps que c'est de la terre. Et parce que, en fait, on a quand même l'image des enduits terre ou des constructions qui ne sont pas forcément droites ou pas forcément toutes lisses. Ça plaît,
ouais.
Ça peut plaire, mais il y a d'autres personnes qui veulent quelque chose de très droit, par exemple. Et en fait, c'est possible aussi. C'est ça qui est. On peut faire des sols aussi en terre, on peut faire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire, quoi, et qui peuvent plaire à n'importe quelle, entre guillemets, clientèle, quoi, que ce soit. J'en sais rien, mais on peut construire un château en terre s'il faut, quoi.
Mais pourquoi les gens n'y sont pas prêts ? Là, tu disais qu'il fallait une certaine ouverture. Alors, quand on parle d'une mairie, en l'occurrence, qu'est-ce qui l'a fait pencher là-dedans ? Ça l'a fait délirer ? C'était moins cher ?
Mais
il y a quand même forcément quelque chose qui fait qu'on y va.
Mais alors là, c'était particulier sur ce projet-là. C'est qu'en fait, c'est un projet qui est mené par l'école d'architecture de Grenoble. C'est des étudiants de Master 1. En fait, ils ont des profs, donc c'est Marie et Kis Zawistowski, qui insistent pour que chaque année, les étudiants, en un an, conçoivent et construisent un bâtiment eux-mêmes, avec les artisans et tout. Et donc, en fait, et que ce bâtiment soit utile aussi à quelqu'un. Donc, ils se sont entendus avec cette commune-là. Ils ont trouvé un maire qui était ouvert, qui avait besoin de cet espace-là. Et ils ont conçu, déposé le permis en décembre et construit le bâtiment. Et après, il a fallu trouver des entreprises pour le béton, le bois, le pisé et tout. Et moi, j'ai été pris en tant qu'entreprise. J'étais seul, intervenant. Et j'avais 22 étudiants avec moi qu'il fallait former. Et ensuite, on a construit pendant 2 mois les murs. Enfin, il y avait 100 mètres carrés de murs porteurs en pisé à construire avec eux, quoi. Donc ça, c'était ça le... Et le maire, je suis pas sûr que sa maison le soit en pisé, je sais pas. Tout son village est en pisé traditionnellement. Donc il y avait un sens quand même aussi ça. Ça fait quand même 200 ans qu'on voit les maisons dans son village qui ont 8 mètres de haut, pas d'enduit et tout, et qui sont là, qui tiennent. Donc la confiance, il l'avait dans la matière. Mais bon, même si on peut montrer à plein de personnes tous ces bâtiments en pisé, il y a quand même la peur, quoi. La peur de la terre, ça tient pas. Ok, ça marche, mais pour ma maison, ça a pas marché, quoi. Et en fait, il y a plein de barrières à franchir. C'est pour ça que les gens y vont pas aussi. Bon, déjà parce que, par exemple, toi, tu connaissais pas le pisé, en fait.
Pas particulièrement, non.
Ouais, voilà. Et donc, il y a plein de gens qui le connaissent pas, en fait.
Mm-hmm.
Donc, Chabeuil, il y a plein de gens qui passent.
Ou on s'imagine des mélanges très techniques, enfin quelque chose de. Bon, on a parlé un petit peu du dosage, mais de quelque chose qui doit forcément tenir un peu. Bon, moi j'ai construit une maison en ossature bois paille. C'est pareil, j'ai exactement les mêmes retours, quoi. Ouais. En plus, le feu, parce que la terre ça brûle pas. Ouais. Moi ça devrait brûler.
Ouais, ouais. Ouais, mais la terre ça brûle pas, c'est une sorte de truc commun. Mais dans les bâtiments publics, oui. Des fois on te demande de refaire un test. De d'essai au feu à la terre, quoi. Donc il le passe à chaque fois, mais il faut le refaire. Donc voilà. Non, il y a plein de barrières à franchir. Bon, déjà en France c'est très normé, la construction. Quand j'étais en Turquie ou au Mexique, on était plus libre de faire confiance au savoir-faire des artisans, alors que là, l'artisan il peut savoir très bien faire du pisé, va falloir quand même passer par toutes les normes, donc c'est pas si évident que ça en France, mais c'est en train de changer. Il y a un peu des règles qui sont en train d'être écrites et trouver des ingénieurs, des bureaux de contrôle aussi qui sont ouverts. Ouais, quand on veut arriver à un bâtiment public en pisé porteur, il y a toutes ces étapes, le client, l'architecte, trouver le bon artisan, le bureau de contrôle, l'ingénieur, tout ça qui valide. Ça fait beaucoup de barrières, quoi. Même en tant qu'artisan, moi, trouver une assurance décennale. Trouver une assurance décennale, t'essuies tous les refus de non, on veut pas vous assurer. Pourquoi ? Parce que c'est une technique non courante. Ok.
Ah, donc, pas mal.
Donc, tu vas en voir d'autres, et puis en fait, c'est triste, mais ils te choisissent un peu à la tête du client, quoi. Et s'ils se disent ok, on te fait confiance. Eh ben, allez, on t'assure. Moi, j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé un, mais c'est presque plus cher que les autres assurances, quoi. Donc, c'est pas si évident. Ça reste marginal. Mais par contre, il y a de plus en plus d'architectes qui s'intéressent au pisé. Aussi grâce, je pense, à cet artisan autrichien qui a montré qu'on pouvait en faire des bâtiments contemporains, il y a de plus en plus de demandes. Et je pense que, par exemple, il y a de plus en plus de maisons en ossature bois aussi. Et ces maisons en ossature bois, elles ont besoin d'inertie. Et donc, l'architecte ou le constructeur, on fait une dalle en béton, ça va apporter de l'inertie, on fait des gros enduits terre. Et en fait, on pourrait faire un mur en pisé central, par exemple, avec le poêle de masse incrusté dedans ou proche, ou un sol en pisé, par exemple. Et là, Et en fait, c'est juste que ces solutions, elles existent pas dans l'esprit des architectes, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples, en fait. Et il va falloir qu'on construise de plus en plus d'exemples, qu'on les fasse visiter, et que voilà, pour qu'on montre ce qu'on peut faire avec ça, quoi.
Quelques exemples comme ça. La plus grosse structure que tu connaisses en pisé, par exemple, un barrage, non ? Il y a pas
non,
ça, un truc énorme.
De l'eau avec le pisé comme ça, là, ce serait peut-être.
Je sais pas, tassé à ce point.
Ah non, ça marcherait pas. Mais par contre, le chantier sur lequel j'ai appris le pisé, c'est le plus grand bâtiment, je crois, d'Europe en pisé maintenant. C'est l'entrepôt pour Ricola, les bonbons. À Bâle, en Suisse.
Suisse.
Ouais, donc j'invite tout le monde à aller voir. Ça fait un bâtiment de 120 mètres de long, 11 mètres de haut, 30 mètres de large, et toute la façade est en pisé, donc et de 45 cm d'épaisseur.
De combien de haut ?
Donc, 11 mètres.
11 mètres de haut.
Ouais. Et il y a que, donc sur cette grande façade de 120 mètres par 11 mètres, il n'y a qu'une ouverture par façade, un grand rond de 6 mètres de diamètre. Et en fait, tous ces murs-là, on les a préfabriqués.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on avait une halle à 3 km du site. Et en fait, parce que le pisé, tu ne peux pas le faire l'hiver. Et donc là, pour aussi tenir les délais, en fait, l'artisan autrichien, il a développé une machine pour accélérer le processus de construction en pisé et travailler l'hiver. On était dans une halle avec un coffrage de 50 mètres de long. On avait une machine sur rail au-dessus du coffrage qu'on remplissait de terre, qu'on conduisait. Elle verse la terre dans le coffrage tout au même niveau. Et ensuite, elle tasse. Donc elle a des marteaux pneumatiques qui tassent la terre.
Donc vous disiez des bouts de mur de 50 mètres.
Ouais, qu'on recoupait en éléments de 3,30 m de long. Ensuite on les stockait pour qu'ils sèchent. Et dès que le printemps arrivait, on a commencé à les assembler.
Et alors on assemble comment? Tu recolles de la terre?
Ouais, on remet de l'argile, du sable entre les blocs et on les pose les uns sur les autres. Et voilà.
Comme un Lego.
Ouais, un peu comme si on avait recréé des grosses pierres en fait. On a retassé de la terre pour en faire des grosses pierres et on les assemble les unes sur les autres. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans la redécouverte de cette technique traditionnelle, c'est que maintenant, on a d'autres outils. On a d'autres outils pneumatiques, électriques, tout ça, qui peuvent nous permettre d'améliorer le processus, la qualité, travailler l'hiver, aussi peut-être petit à petit libérer un petit peu le corps de l'effort qu'il faut pour faire du pisé. Donc c'est assez motivant en fait comme période.
Les avantages pour toi du pisé?
Bah alors, ce que je disais, c'est l'inertie. C'est très dense comme matière, c'est entre 1800 et 2200 kg par mètre cube. Donc ça apporte beaucoup d'inertie. Ensuite, c'est en fait, l'argile, ça a la particularité de réguler l'humidité naturellement. Donc en fait, ça a la capacité d'absorber de l'humidité et d'en relâcher. Donc ça, au niveau du confort intérieur, bah, ça change tout en fait, parce que on sait tous que une chaleur sèche ou humide ou un froid sec ou humide, ça change beaucoup le ressenti qu'on a. Et donc ça permet de réguler l'humidité. Ensuite, il y a ce qu'on disait écologiquement, c'est quand même c'est un des seuls matériaux où tu peux entièrement recycler ton mur. C'est-à-dire que, enfin, ouais, tu fais un mur. Tu le recasses, tu le réhumidifies, tu le retasses, tu le recasses, tu le réhumidifies, à l'infini, tu te fais ton mur. Donc, au final, c'est quand même un luxe incroyable.
C'est super facile pour agrandir sa maison, quoi.
Voilà, c'est ça. Ou pour la laisser disparaître.
Ouais.
ensuite, après, il y a des petits détails qui sont vraiment importants. C'est sur chantier, travailler des matières que tu peux toucher à la main, ça change tout, en fait.
Tu peux respirer même.
Que tu peux respirer. Bon, quand c'est sec et que tu fais de la poussière, n'importe quelle poussière, c'est pas bon.
Oui, mais bon.
Mais oui.
C'est pas de la poussière de,
oui.
De plâtre.
Oui, 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 oui. Mais en tout cas, tu peux le travailler à la main. Ah oui, tu peux. Ce qui est important aussi, c'est que comme on peut le recycler, en fait, on peut aussi le réparer à l'infini. Donc, je sais pas, tu casses un angle un jour, tu réhumidifies, tu prends de la terre, tu le retasses et tu as réparé ton angle. Donc ça, c'est quand même aussi incroyable de pouvoir maintenir comme ça un mur assez facilement en fait. Et même, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est de former le client à réparer lui-même. Et par exemple, moi j'habitais chez une architecte qui a appris aussi à construire en pisé en Allemagne. Et en fait, chaque année, s'il y a des petits pocs qui se sont faits, je sais rien, sur le bloc de sa cuisine, ou même avec sa fille, elle remouille la terre et elle retasse elle-même, quoi. Où il y avait une maternelle en Autriche où tout le sol, 200 mètres carrés de sol en pisé, chauffant. Et en fait, les profs avec les élèves, ils peuvent retoucher les petits trous qui ont été faits, quoi, avec le temps. Et ça, c'est, je sais pas, je trouve ça assez sympa. Et puis ça permet de maintenir des bâtiments dans la durée. Donc de ne pas penser une maison sur 10 ans, 15 ans, où on devra refaire tout ce qui est matériaux, on va dire, isolants et tout ça. Bon là, la partie pisée, si tu la maintiens bien, tu es parti pour 500 ans, quoi. Il n'y a pas une garantie décennale, mais une garantie... centenaire,
centenale. Personne voudra te
la donner.
De toute façon, te la donner.
Non, je pense pas.
Cette technique est trop marginale. Du coup, on a parlé de la qualité, et alors au niveau prix, tu penses que ça vaut vraiment le coup?
Alors, bah en fait, c'est une technique qui est intense en main-d'œuvre. Donc, en fait, tout ce qui est intense en main-d'œuvre coûte cher dans le modèle économique dans lequel on est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le modèle économique? Ce qui serait pas mal, mais qui va demander.
Tu veux aussi qu'on aille vers le moins 10 ans social?
Ah non. Ah non, non, non. Non, le modèle, quand je dis ça, c'est que, bah, par exemple, ça coûte. En fait, comme on taxe, par exemple, la main-d'œuvre et pas les machines, bah, ça pousse à l'industrialisation, donc à la consommation de produits industriels. Et en fait, tu peux pas rattraper ces prix-là, quoi. Ça fait 120 ans que le béton il s'industrialise, qu'il y a toutes les toupies, tout est fait pour ça. Et ben, avant de rattraper ce prix-là et cette organisation-là, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, donc c'est sûr que c'est plus cher que ces techniques-là, mais en fait, je pense que c'est un choix. C'est vraiment un choix. Quand tu construis ta maison, il y a des choix à faire d'espace, d'économie, de compromis. Et en fait, si on veut vraiment ce mur en pisé ou le sol en pisé, en fait, on peut l'avoir. Il faut vraiment y penser dès la conception, en fait.
Tu dirais qu'on va se rattraper, par exemple, sur la partie chauffage de l'espace, sur son entretien, on en parlait tout à l'heure.
Voilà, sur ça. Sur
la durée de vie.
Et en fait, même il y a la conception des espaces à revoir. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de chambres de 15 mètres carrés, de choses comme ça. Il y a déjà ça à penser, quoi. Dès le départ, c'est que la qualité de l'espace, je pense, est beaucoup plus importante que la quantité. Et ça change tout. On peut faire des économies, en fait, en faisant ça, en ayant des espaces peut-être plus petits, mais plus qualitatifs, avec des bons matériaux. Donc au niveau du prix, c'est comme c'est basé sur la main d'œuvre, c'est sûr que c'est plus cher, quoi, que d'autres techniques.
Ça a par contre l'avantage peut-être de pouvoir utiliser en main d'œuvre la personne qui a commandé aussi. Enfin, je veux dire,
ouais.
Du coup, tout le monde peut y bosser dessus. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir une.
Bah, je sais pas si tous les artisans.
T'oriente forcément.
Ouais, je sais pas si tous les artisans acceptent ça.
Ouais. Et toi?
Mais moi, j'appréhendais un peu ça. Mais cette année, j'ai fait un premier projet en chantier entièrement participatif. Et en fait, si le client, en fait, faut que ça vienne d'un souhait, que ce soit en participatif, pas que ce soit juste une question économique.
Mais ça pourrait être une proposition d'entrée de jeu de ta part aussi, de dire, voilà,
aussi.
Il est possible, en
c'est
tout
possible.
Cas avec moi, de travailler.
Ouais, ouais, c'est possible, mais il y a certaines conditions. Parce que, en fait, donc, la qualité du résultat est forcément, enfin, peut être moins bonne. Et ça, moi, j'essaie de pas trop l'accepter, donc c'est-à-dire que j'insiste sur la qualité de l'ouvrage, et donc il faut que ce soit un chantier très organisé, donc que les clients ils soient très organisés, qu'il n'y ait pas, je sais pas, 3 personnes un jour, 5 personnes l'autre jour, pas les mêmes personnes, il faut que ce soit quand même sérieux, quoi. Mais par contre c'est possible, on a fait un mur dans une maison, donc c'était une maison ossature bois, isolée à laine de bois, et il leur manquait de l'inertie, donc en fait elle fait 3 niveaux. Donc sur les 3 niveaux, on a fait un mur central en pisé qui fait donc 5 mètres de long par 6 mètres 50 de haut. Et le long, il y a l'escalier. Donc c'est quand même un ouvrage, voilà, à 6 mètres de haut en terre. Et puis il fallait que ce soit très précis. Et en fait, les clients eux-mêmes étaient sur chantier, leur famille, des architectes de l'école d'architecture de Lausanne. Enfin, c'était, il y avait une dizaine de personnes par jour. Et c'était très... très professionnels. Ils étaient vraiment tous très motivés, parce que c'est quand même de l'effort, hein, un effort, hein, de faire du pisé. Hein. Faut amener la terre, la tasser, tout ça.
La montée, là.
La montée, les coffrages et tout. Par exemple, moi, c'est sûr qu'il n'y a pas de jour où il n'y a pas l'artisan. Il faut que je sois là, par exemple, ou un autre artisan, mais faut que l'artisan soit là tous les jours. Quoi.
En maître d'œuvre.
Voilà, pour tout vérifier. En fait, on peut pas faire, faut pas faire d'erreur, parce que c'est quand même... comme n'importe quelle technique de construction, il y a un savoir-faire. Ça ne s'invente pas, quoi. On ne s'invente pas piseur, on ne s'invente pas, j'en sais pas, un maçon, quoi. Tous ces détails-là, si on veut... en fait, c'est important que le pisé ou que les constructions en terre soient de bonne qualité. Parce que...
Elles seront encore plus pointées du doigt.
Voilà, c'est ça. Dès que tu fais une erreur, en fait, tu es pointé du doigt. Donc, en fait, il faut que ce soit nickel. Et ça, moi, j'essaie de le sentir. S'il y a quelqu'un qui veut faire son chantier en chantier participatif juste pour des raisons, parce que ça va être moins cher et que voilà, mais en fait, c'est pas une bonne raison. Ça va être moins cher, mais c'est pas la bonne raison. Il faut que ce soit un sentiment de vouloir participer à sa propre construction et qu'on soit sûr de pouvoir organiser quelque chose de cadré, quoi.
Timur Ersen sur RDUA, on parle d'architecture, d'artisanat et de Pisé, l'atelier Cara. Pourquoi tu as répondu à notre invitation?
Ah, parce que effectivement, ça m'intéresse de rencontrer potentiellement des gens qui veulent en savoir plus dans le coin, sur le Pisé, parce que même si ça mène pas forcément à des projets, mais c'est juste que je trouve ça dommage de me dire bah je sais pas, j'en vois des maisons en ceinture bois dans le coin, j'en vois des constructions, ça se construit dans le coin, et j'entends aussi des gens qui sont ouverts, qui seraient ouverts à ces techniques-là. Et
Mais
je
ne la
me dis,
connaissent pas.
mais ils ne la connaissent pas. Et ce savoir-faire-là, bah, alors moi, je continue à le mettre en œuvre, bah, en Suisse, en Bretagne, machin. Mais pourquoi pas dans le coin, quoi? Et donc voilà, pourquoi, enfin, peut-être que c'est un biais pour faire connaître cette technique, quoi, je
Ah
sais
bah très
pas.
mais bien. Ne serait-ce que pour moi déjà. Bon bah rappelle-nous où t'es basé, comment on te trouve, si t'as un site internet, tout ça.
Bon, bah, moi je suis à Cray, l'entreprise est à ME. J'ai un site internet, donc c'est www.atelier-du6-cara.com. Voilà. Et dessus, il y a mélanger les projets d'archi et d'artisan. Donc ça se voit.
On peut te trouver, par exemple, tu fais un petit peu des salons justement pour présenter cette technique-là.
Non, pas
Non.
encore. Parce que je me suis pas dit que c'était le bon biais,
Oui, pas
mais
forcément.
non non l'idée ce serait plutôt de construire quelque chose dans le coin, peut-être moi-même, et ensuite de le faire visiter, parce qu'en fait je me suis rendu compte en Turquie tu peux parler de terre, ça intéresse plein de monde, mais tant que t'as pas montré que ça marche, ça va pas. Et là par contre, si je peux
Ouais,
inviter
carrément.
qui veut voir le bâtiment en public là qu'on a fait avec les étudiants. Il y a l'inauguration le 13 novembre, mardi 13 novembre, entre 11h à 17h. C'est ouvert à tous. Donc là, il y a 100 mètres carrés de murs porteurs en pisé. Il y a même des parements préfabriqués en pisé intérieur. Vous pourrez discuter avec les étudiants, avec les architectes, avec les élus, avec moi. Et voilà.
C'est où? Parce qu'on l'a
Ah
jamais
oui,
dit encore.
je l'ai pas dit.
Non.
C'est à Four. Donc Four 38080 dans l'Isère. C'est un petit village. Voilà.
Et puis ben si auditrice, auditeur, tu es intéressé pour offrir pourquoi pas à Timour la possibilité de construire son premier bâtiment dans le Diwa, allez, allons-y. N'hésitez pas. Hein.
Ok.
Merci pour ta présence en tout cas et à une prochaine.
Merci à toi.
L'interview du jour.